Bonjour et bienvenue à Europe & Russ sur Radio Fadjet. Aujourd'hui, une émission sur l'Irlande, ses coutumes, une Française qui a passé une année. D'abord, écoutez Cédric sur l'histoire de l'Irlande.
L'Irlande n'est pas que le pays des pubs, des farfadets et des trèfles à quatre feuilles. Histoire contemporaine sanglante, traditions enracinées, miracles économiques et paysages grandioses du Kerry, voilà ce qui fait l'Irlande aujourd'hui. Commençons par un retour en arrière sur le XXe siècle irlandais. Encore aujourd'hui, on entend parler du Sinn Féin, cette organisation nationaliste qui se bat depuis plus d'un siècle pour l'indépendance de l'Irlande. Mais quelle est l'origine de ce conflit? La domination britannique. À la base des dissensions était un conflit religieux, véritable guerre civile, entre les nationalistes catholiques et les unionistes protestants. Une région de l'Irlande pose particulièrement problème. Le comté de l'Ulster, au nord de l'Irlande. Il a une tendance protestante alors que le reste de l'île est à 95% catholique. Les Irlandais ont réussi à obtenir leur indépendance après des attentats après la Première Guerre mondiale et l'Irlande du Nord a été rattachée au Royaume-Uni. Mais la question de ce comté d'Ulster reste problématique. C'est pourquoi l'Irlande est restée longtemps absente des organisations internationales, une forme de protestation. Mais depuis les années 70, l'Irlande a décidé de s'ouvrir. Elle rejoint alors l'Union européenne et connaît un véritable boom économique. Mais l'IRA, la branche armée du Sinn Féin, est toujours active à cause de ce morceau d'île encore sous domination anglaise. Mais enfin, sous Tony Blair, un accord de paix historique a pu être signé. L'accord dit du Vendredi Saint de 1998 mit fin à 30 ans de guerre civile. Un aspect plus réjouissant de l'Irlande est sa culture. Certains écrivains anglophones sont en réalité irlandais. On peut citer Samuel Beckett ou C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, ou encore Joseph O'Connor. De même pour les groupes de musique, qu'ils soient anglophones, comme U2 que l'on ne présente plus, ou irlandophones, comme The Corrs. L'Irlande a en effet deux langues officielles, l'anglais, hérité de l'ancienne domination, et le gaélique, dérivé du celte, encouragé par l'Église et les partis politiques. L'Église catholique a encore une grande importance dans le pays, ce qui le rend très conservateur sur certains aspects. Des questions comme l'avortement, l'homosexualité et la contraception commencent seulement à être discutées, tandis que le divorce n'est autorisé que depuis 1997. Pour terminer ce petit tour de l'Irlande par une note touristique, le climat y est très doux grâce au Gulf Stream, un courant océanique qui vient réchauffer le climat pluvieux du Royaume-Uni. Alors, on ne peut que vous encourager à vous rendre à la capitale, Dublin, pour visiter son château, l'imposante cathédrale de Saint-Patrick, goûter ses spécialités, et bien sûr, vous arrêter à la brasserie de St. James Gate, où est produite la fameuse Guinness.
Et pour se mettre dans la bonne ambiance, voilà un traditionnel irlandais. Les Irlandais ont un jour de fête qui, à mon avis, s'exporterait très très bien. C'est la Saint-Patrick et ce sont Maxime et Chloé qui vous en raconteront l'histoire.
Qui était Saint-Patrick ?
Il faut savoir qu'il y a beaucoup de saints et missionnaires qui ont marqué l'histoire de l'Irlande. Le plus connu d'entre eux, c'est donc Saint-Patrick, qui a vécu au 5e siècle. Mais il ne serait non pas né en Irlande, mais en Bretagne insulaire, une région qui correspond à l'actuel Pays de Galles. Tout ce que nous savons de lui provient de ses écrits, notamment le Confessio. Le Confessio, c'est une biographie où Saint-Patrick raconte sa vie et le déclic mystique qu'il a eu. Donc, on y apprend qu'à l'âge de 16 ans, Saint-Patrick a été enlevé par des pirates irlandais pour être vendu à un berger qui en fait un porcher. Donc, il a été débarqué au nord de Dublin, où il passe 6 années sur la montagne de Slemish, où il est réduit en esclavage. Mais il a finalement réussi à s'enfuir et est allé en Angleterre, où il a fait un rêve. Et dans ce rêve, la population irlandaise l'appelait, en fait. Et lui demandait de la sauver. Saint-Patrick, qui auparavant n'avait pas eu de vie très religieuse, a eu comme une révélation. Et il a décidé d'avoir une vie religieuse à ce moment-là.
Et qu'est-ce qu'il a fait, en fait, Saint-Patrick ?
Il est allé faire un sacerdoce dans plusieurs monastères de France et d'Italie. Et puis, il a rejoint l'Irlande vers 432 en tant qu'évêque. Alors, il parcourt le pays, porte secours aux plus nécessiteux, il fonde des monastères et des abbayes, et prêche et accomplit des miracles.
Quoi comme type de miracle ?
Le plus connu est celui des serpents, puisqu'on raconte aujourd'hui qu'il a définitivement éradiqué les serpents de l'île d'Irlande.
D'où il est devenu le saint patron de l'Irlande ?
Oui, puisqu'en 30 ans, il a converti presque toute la population. Il est mort, d'après la légende, à l'âge de 120 ans, et il a été enterré à Down, en Ulster, qui a ensuite été rebaptisée Downpatrick. Et à sa mort, le pays est organisé en une multitude de petits diocèses qui coïncident avec les petits royaumes irlandais qui avaient été créés à l'époque celtique.
Et donc depuis, on fête la Saint-Patrick en Irlande.
Donc on fête la Saint-Patrick le 17 mars puisque Saint-Patrick serait mort le 17 mars.
Et comment on fête la Saint-Patrick en Irlande ?
Donc le 17 mars, les habitants arborent un petit bouquet de trèfles. Donc ce trèfle, c'est le Shamwock. C'est une coutume assez récente, mentionnée pour la première fois au XVIIe siècle, puisque on fête la Saint-Patrick depuis très très longtemps.
Qu'est-ce que représente le Shamwock ?
Alors en fait, la tradition populaire veut que Patrick ait utilisé cette plante pour illustrer la doctrine de la Sainte Trinité aux oreilles irlandaises, pour qu'ils comprennent mieux.
Et il n'y a pas d'autres petites traditions plus contemporaines pour fêter la Saint-Patrick ?
Si, il y a la noyade de trèfle allant de pair avec le pota padreg, donc le pot de Patrick, rasade de whisky dont Patrick aurait lancé l'usage un jour qu'il avait chassé un esprit malin. En fait, Saint-Patrick, il a débarrassé l'Irlande des serpents, mais il a amené le whisky.
Quel homme ! Et on a l'impression que c'est une fête aussi qui devient de plus en plus populaire, non, pas seulement en Irlande, mais aussi dans le monde.
Oui, donc la fête a dépassé les frontières du pays, puisqu'elle est fêtée de plus en plus à New York, ou Chicago, Sydney ou Londres, des villes où la communauté irlandaise est très importante, suite aux migrations de la Grande Famine notamment. Et puis aussi dans d'autres pays qui n'ont pas forcément de communauté irlandaise, puisque des non-irlandais qui participent aux festivités se réclament irlandais d'un jour.
Merci Chloé, merci Maxime, merci Saint-Patrick. Écoutez maintenant The Pogos avec Irish Rover. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. It was a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of snow. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million files of old Nanny Goss tiles and a whole of the Irish Rover.
There was Elf Mickey Toot, who played hard on his flute when the ladies lined up was toot with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were Fluker and Betts. With his smart, witty talk, he was cock of the walk, and he rolled the dame under and over. They all knew how to dance, but he took up his stance, and he sailed in the Iron Rover. Of the lead, I was holding from Kelsey to Hull. There was Johnny McGurk, who was scarce of a war, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of the Fan, was a scout on the Irish Rover. For a sailor, it's always a bother in life, it's a lonesome by night and by day. Then he longs for the shore and the charming young whore who will melt all his troubles away. All the noise and the rout, swilling, putting and stout, for him soon is done and over. Of the love of a maid, he is never afraid, but I'll saw from the Irish Rover. We have sailed 7 years when the measles broke out, and the ship lost its way in the fog. And a whale of a crew was reduced down to two, just myself and the captain's old dog. And the ship struck a rock, oh Lord, what a shock! The boat, it was turned right over. Turned nine times around, and the poor old dog was drowned. And the last of the Irish Rover.
Maintenant, pour un regard français sur l'Irlande, écoutez Margot qui a interviewé Claire, partie une année étudiée en Irlande.
Claire, tu as 23 ans et tu as fait une année Erasmus en Irlande.
Alors, j'étais à Cork, dans la deuxième ville d'Irlande, donc après Dublin, et qui se situe dans le sud-ouest de l'Irlande.
C'est une ville très dynamique.
C'est quand même assez petit par rapport à Dublin, mais c'est vrai que c'est une ville qui se développe, notamment avec l'année culturelle, l'année européenne, là, qu'ils ont eu juste après Lille, je crois que c'était en 2005. Et donc, c'est vrai qu'à la période à laquelle j'étais, ils étaient en train de développer tout un tas d'infrastructures, notamment culturelles, mais aussi au niveau de l'urbanisme de la ville. Et donc, du coup, c'est une ville qui était, ouais, en effervescence, quoi, en train de préparer quelque chose dans le cadre de l'Europe et qui avait vraiment envie de s'ouvrir.
Tu sais s'il y a toujours cette effervescence ?
Je suis pas retournée, mais j'ai eu des nouvelles de certains Irlandais qui y sont toujours. Et ouais, non, ça s'est vraiment concrétisé durant cette année européenne. Et voilà, ils ont vraiment réussi à développer quelque chose et à faire perdurer justement cette ambiance et cette dynamique d'ouverture finalement sur l'Europe.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le mode de vie irlandais ?
La chaleur des gens, en fait, l'accessibilité et leur ouverture d'esprit. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais française, et c'est vrai qu'il y a une espèce d'attachement entre l'Irlande et la France. Moi-même, quand je parlais à des Irlandais, c'est vrai que j'avais une espèce de facilité, de contact comme ça, tout de suite, évident. Et eux aussi, c'est vrai qu'ils nous le disaient, ils adorent les Français, et du coup, il y avait une espèce d'évidence comme ça dans le contact. Et c'est vrai que, mais bon, même avec les autres étrangers, ils étaient vraiment très ouvert d'esprit, quoi. Enfin, je veux dire, un moment, si t'es perdu dans la rue, si tu regardes un plan et que tu sais pas où tu dois aller, spontanément, il y a quelqu'un qui s'arrête pour t'expliquer ton chemin. Enfin, vraiment, ils sont vraiment accueillants, quoi.
Justement, non. Au niveau des traditions irlandaises, le mode de vie, les pubs, tout ça, est-ce que ça existe encore ?
Ouais. Bah oui, les pubs, c'est quand même quelque chose. L'ambiance vraiment chaleureuse, tout le monde boit ensemble. Et c'est vrai que c'est là que j'ai pu rencontrer vraiment de vrais Irlandais, parce que bon, après, à l'université, on rencontre des étudiants, mais on rencontre aussi beaucoup d'Erasmus. C'est un cercle qui est quand même un peu fermé, quoi. Et c'est vrai que le seul endroit où je pouvais vraiment commencer à parler à des gens, c'était dans le pub, quoi. Des gens de tous âges, des personnes âgées qui étaient ravies de parler à des jeunes étudiants qui venaient d'autres pays. Et autour d'une bière, du coup, c'est très convivial. Et cette ambiance, je sais pas, on a une espèce d'a priori comme ça, favorable sur les pubs. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment quelque chose de particulier, avec des petits concerts de musique traditionnelle. Alors ça, c'est plus dans la campagne. Mais ça existe toujours, quoi. Ils sont tellement attachés à leur culture qu'ils ont envie de faire perdurer ça, quoi. Donc ouais, vraiment une vie nocturne assez, assez dynamique, quoi.
La chanson qui suit s'appelle Brown Eyed Girl et le chanteur Van Morrison.
Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. Are you my brown eyed girl? Do you remember when we used to sing sha la 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 la.
C'était Van Morrison avec la chanson Brown Eyed Girl. Vous êtes toujours à Europe & Rose sur Radio Fadjet. Retrouvez maintenant l'interview de Claire par Margot.
Les Irlandais sont des fêtards, on l'aura bien compris. Et alors justement, un truc qui peut poser des problèmes d'adaptation pour les Français ou les gens qui arrivent en Erasmus en général, le gaélique, l'accent irlandais,
ouais.
C'est encore très présent?
Ouais, mais moi c'est ce qui m'avait fait peur au début. Je me disais, non mon Dieu, enfin, en Irlande je vais rien comprendre. Alors bon... C'est vrai que quand on arrive à la fac, l'accent est très normal. Enfin, je veux dire, les professeurs parlent avec un accent presque britannique. Il est vraiment, il se fait pas sentir. Au milieu des étudiants et des professeurs, c'est pas du tout ça. Après, c'est vrai que c'est dans les pubs avec les personnes un peu plus âgées qui, là, c'est plus difficile. Mais comme je disais, ils sont tellement accueillants et tellement chaleureux. Du coup, ils parlent doucement, ils prennent le temps de t'expliquer ce qu'ils veulent dire et c'est pas un problème en fait. Enfin, moi, au début, j'avais vraiment peur de cette barrière de la langue. Au-delà de l'accent, même parler anglais, je parlais pas très bien, je me disais, mon Dieu, mais ça va être horrible. Et en fait, il faut un petit temps d'adaptation, mais ça va tellement vite, l'écoute. Enfin, moi, j'étais pas très douée en langue à la base, mais au bout de 2 semaines, l'oreille se développe très vite et presque naturellement, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. T'es forcé d'aller vers l'autre, et tant pis, si tu parles pas bien, c'est pas grave, ça se voit que t'es étranger et les gens vont faire un effort. Donc, c'est franchement pas un problème, quoi.
Tu conseillerais à quelqu'un de partir en Erasmus en Irlande ?
Oui, en Irlande ou ailleurs, hein, parce qu'Erasmus, c'est vraiment une expérience particulière et géniale. Donc moi, ce que je conseille, c'est de partir, peu importe l'endroit. Mais après, c'est vrai que bon, moi, comme je suis partie en Irlande, je peux que conseiller aux gens d'y aller. C'est vrai que même dans des petites villes, parce que comme je disais, Cork, c'est pas grand. Et même en un an, on a le temps de tout voir, de tout découvrir. Et du coup, c'est bien aussi les petites villes. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. On est bien accueilli. Enfin, je veux dire, Erasmus, c'est vraiment facile. On est vraiment pris en charge au niveau des dossiers. Tout ça, c'est vraiment... Enfin, il n'y a presque rien à faire. Et puis, après, ça dépend des gens, mais on peut avoir une bourse et ça coûte pas cher. Enfin, c'est vraiment faire la même année qu'on aurait fait en France, mais à l'étranger. Et ça nous apporte tellement plus au niveau personnel. C'est vraiment une expérience vraiment à vivre, quoi. Enfin, moi, ça m'a appris l'indépendance. J'ai pu rencontrer des gens super avec qui j'ai toujours des contacts. Mais partout dans le monde, je peux aller au Canada. Je sais que j'ai quelqu'un qui pourra m'accueillir. Enfin, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je conseille parce que, enfin, peut-être qu'on ne le fera qu'une fois dans sa vie, mais au moins on l'aura fait. On pourra se dire, bah voilà, moi j'ai vécu un an dans un autre pays, j'ai vu autre chose, j'ai vu d'autres personnes. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, ouais.
Voilà les Irlandais les plus célèbres de la planète, U2 avec Sunday Bloody Sunday.
Oh,
Maintenant, une critique du film Le Vent se lève, faite par Maxime.
Le Vent se lève de Ken Loach. Le Vent se lève traite de la colonisation de l'Irlande par la Grande-Bretagne. Depuis le XIIe siècle, l'Irlande s'est vue de plus en plus soumise à la Grande-Bretagne. Celle-ci a fini par diriger le pays, contrôler les terres, mater les révoltes et ainsi placer les Irlandais dans un état de servitude totale. Dans les années 20, un groupe de jeunes amis irlandais décide de prendre les armes pour lutter contre les soldats britanniques. Damien est un jeune médecin à l'avenir prometteur. Avec son frère Teddy, il se révolte contre les redoutables Black and Tans qui occupent leur pays, pillent, violent, torturent et tuent. Pendant des années, les deux frères avanceront unis dans leur combat. Prêts à tout pour leur cause, ils devront accomplir beaucoup de douloureux sacrifices. Finalement, leur action portera ses fruits, puisqu'un accord sera trouvé entre l'Irlande soumise et la puissante Grande-Bretagne. Mais cet accord n'est pas accepté par tous ceux qui ont participé à la lutte pour l'indépendance. Alors que certains rejoignent l'armée régulière anglaise, d'autres continuent le combat contre les Britanniques, parfois contre leurs anciens compagnons. La guerre civile qui s'ensuit ne laisse personne indemne. Le Vent se lève est un film bouleversant, servi par des comédiens formidables et qui, au-delà de la violence visuelle qu'il comporte, nous laisse percevoir d'autres formes de violence. La violence psychologique des situations filmées, mais aussi la violence mythologique des destins tragiques des personnages principaux qui se dressent les uns contre les autres malgré les liens forts qui les unissent. Après avoir vu ce film, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Que ferions-nous à la place des personnages? Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour défendre notre pays? Le Vent se lève a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2006, une récompense bien méritée.
C'est la fin de cette émission d'Europe and Roll, mais c'est pas grave parce que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web europeandroll.free.fr. Sinon, rendez-vous pour la semaine prochaine, comme toujours, dimanche à 13h30, lundi 19h30 et minuit, et mardi à 12h30, la semaine prochaine, pour une émission en direct de Berlin. Au revoir, goodbye, et à la semaine prochaine.